Le jour d'après, c'est LE podcast qui libère la parole. Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez écouter la partie 1 de l'épisode 6, deuxième saison. Cet épisode 6 parle de la violence conjugale, l'emprise, la dépendance. Une femme sur trois dans le monde est victime de violence. En 2022, le ministère de l'Intérieur compte une hausse de 15% du nombre de victimes conjugales. Et cela, parce que les langues se délient. Les violences ne se limitent pas aux coups. Les mots sont aussi destructeurs car ils s'installent de façon pernicieuse dans nos têtes. Comme elle, si vous vous reconnaissez, ne restez pas seule car vous ne l'êtes pas. Osez et appelez le 3919. Vous pouvez également vous rendre à une antenne des Maisons des Femmes où on vous écoutera avec bienveillance, où vous pourrez être conseillé sur la marche à suivre. Vous trouverez dans le descriptif du podcast des liens d'associations et d'institutions engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous y trouverez des offres d'écoute, de conseils et de soins. Chaque histoire est différente, mais la violence reste la violence. Sortez de votre isolement. Le jour d'après est une fiction inspirée de faits réels. Place à l'écoute, épisode 6, partie 1, face à elle. Les objets ont volé comme des fusées à travers les pièces. Une télé, des tabourets, des bougies allumées, des tankards vides, des ordinateurs, des portables. Quand l'homme se met en colère, il prend, il jette, avec une force insoupçonnée. Il donne des coups de pied dans les portes, il donne des coups de poing dans les murs. Parfois ça casse, parfois ça laisse des traces, parfois ça fait des trous, et souvent ça lui fait mal. Karianne est chez moi, nous avions besoin de plus d'intimité et éviter le brouhaha du café d'en bas. Une bouteille de rosée plus tard, ces mots tourbillonnent dans ma tête, s'incrustant violemment dans mon subconscient.
Nous ne recevions plus personne. L'appartement était rempli de stigmates de violence. J'avais honte. J'en avais parlé un peu au travail, puis je n'avais plus vraiment d'oreille amicale autour de moi. Je n'évoquais plus à mes proches mon échec, lassé de mes annulations, lassé de ma situation. Ils ne comprenaient pas pourquoi je restais. Ils me disaient
« C'est que ça doit te convenir puisque tu restes. T'es sûrement maso. »
Mais moi, je vivais dans l'espoir qu'il redevienne l'homme du début, l'homme que j'ai cru aimer. J'ai espéré qu'il s'en rende compte, qu'il ait un déclic, qu'il ouvre les yeux et qu'il m'aime bien, qu'il m'aime mieux pour la femme que j'étais. Mais c'est moi qui avais les yeux fermés, qui étais dans le déni, qui lui trouvais des excuses. Ou peut-être que c'est à moi que je trouvais des excuses, parce qu'il en faut pour supporter tout ça. J'en parlais à des gens de passage parce que leur avis m'apportait peu. Je restais factuelle, sans vraiment dire les mots, sans vraiment dire la peur. Ensuite, il s'est attaqué à mes affaires personnelles. Il jetait à la poubelle mes bijoux, mes paires de chaussures ou des sacs que je portais tous les jours. Je passais du temps à les chercher dans tous les recoins de notre taudis. D'une façon hautaine, il me démontrait que je ne faisais attention à rien et que par conséquent, il m'offrirait plus de cadeaux. Tout ce que j'aimais était brisé au fur et à mesure des années. Tous les souvenirs de ma vie passée, de ma vie d'avant lui, étaient réduits en cendres.
Il la quittait régulièrement. Il partait, pas très loin. En fait, plus précisément dans la pièce d'à côté sur le canapé. C'était un grand élan de courage et de détermination. Quitter, mais rester. S'imposer, reprendre sa liberté sous son nez. Il la quittait souvent l'été, souvent le jour de son anniversaire, souvent le jour de l'anniversaire de leur enfant, souvent pendant les fêtes de fin d'année. Elle se retrouvait dans un sentiment d'abandon, face à rien, incapable de se retrouver seule face à elle-même. Le constat était bien trop navrant. Elle n'assumait pas. Elle faisait partie d'une famille éduquée, où il n'y avait pas de cris, pas d'insultes, pas de manque de respect. Elle avait l'impression de vivre à travers les caméras de la chaîne Énergie 12, ce misérabilisme dont elle se moquait.
Oui, je m'imaginais filmer H24 dans une réalité scénarisée, afin qu'il y ait toujours des rebondissements. Cette situation ne pouvait pas être réelle. J'en oubliais souvent de me nourrir. Et quand j'essayais de manger, la nourriture se bloquait dans ma gorge, créant des boules, des obstacles à ma déglutition.
Ces boules descendaient dans son ventre et la pliaient en deux. Elle s'étouffait, elle étouffait. Elle a testé les limites de la survie, de sa survie. Après chacune de ses ruptures, après qu'elle le suppliait parfois à genoux, il réintégrait la chambre comme un sauveur, à chaque fois, en lui faisant promettre de changer, sinon il repartirait à côté, sur le canapé. Parce que le problème ne venait que d'elle. Elle acceptait et il l'interrogeait sur la façon dont elle allait s'y prendre pour changer son caractère et sa personnalité. Elle devait modeler à son goût une nouvelle femme en reniant la femme qu'elle était depuis toujours. Elle ne savait pas quoi répondre, il s'énervait, elle se recroquevillait, elle avait peur. Elle lui disait tout ce qu'il voulait entendre, juste pour qu'il se calme. Mais il ne se calmait pas. Elle vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ne pas faire, ne pas dire, faire, dire. Elle ne savait jamais comment se comporter pour éviter de le faire craquer. Elle se levait et se couchait avec l'estomac noué. Elle ne savait jamais comment la journée pouvait évoluer, dégénérer et se terminer. Elle ne savait jamais si l'heure suivante elle serait quittée et abandonnée. Cette pensée lui était insupportable. Elle ne se sentait pas capable d'élever leur enfant seule dans une ville si rapide, si stressante, parce qu'elle évoluait à contresens.
Et tu sais, malgré le peu de rapports sexuels que nous avions et le peu de temps qu'il passait en moi, je suis de nouveau tombée enceinte. On a eu un deuxième enfant, alors que j'étais consciente du mal qu'il me faisait. Que j'étais consciente que rien n'était normal. C'était un garçon cette fois.
Je la fixe et je suis partagée par l'envie de la prendre dans mes bras et de la secouer. Je suis partagée par l'envie de la fuir ou de la protéger. Je suis en colère. Je lui parle de Mélodie pour la première fois. Je lui parle de cette femme formidable qui aurait tout donné pour vivre encore, qui ne s'est jamais lamentée, qui nous a toujours fait rire jusqu'à la fin. Je lui parle de sa force, de mon admiration pour elle. C'est la première fois que j'en parle avec tant de véhémence, parce que bordel, elle me manque. La recherche avance sur les traitements pour les cancers du sein triple négatif. Ma mère m'envoie régulièrement des articles de l'Institut Curie. Et comme écrivait Dostoïevski, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Elle sait que le combat de Mélodie est devenu le mien, que j'ai besoin d'y croire. Après avoir écouté ma tirade sur mon amie disparue, Karienne se tue un moment, s'enfonçant tête baissée dans son fauteuil comme une enfant vexée. Je lui dis de continuer, qu'il faut qu'elle parle et que moi aussi je dois m'exprimer, craquer, afin d'évacuer ma colère. Et que Mélodie est une blessure que je dois penser. J'ai besoin de m'éloigner d'elle un temps de vacances, d'insouciance, de fêtes, d'amis et d'alcool. L'oublier, la tenir à distance. Faire comme si elle n'avait jamais existé. Mais je sais qu'elle m'attend, qu'elle a besoin de moi. Son prisme est présent dans chaque bouteille de vin que je bois, dans chaque homme que j'embrasse furtivement, dans chaque nuit blanche agitée du sud de la France. Je sais qu'elle m'attend car elle m'a fait confiance. Il est trop tard. Elle a commencé à déballer l'horreur de sa vie. Et je dois réceptionner cette merde. Sans savoir quoi en faire, où la mettre, à qui la donner, parce que je ne veux pas la garder. Alors c'est mon psy qui récupère cette merde, et je sais qu'elle nous aidera ensemble, ou pas du tout. Je la retrouve au bout de 2 semaines, et je décèle une trop grande émotion à mon arrivée. Je lui ai manqué, moi pas. Mais je suis là. Habituellement, je suis quelqu'un qui m'enthousiasme trop vite, qui a des grandes passions amicales, qui se terminent aussi vite qu'elles aient commencé. Mais là, je n'ai pas d'engouement. Peut-être qu'elle est la femme que je ne veux plus être. Peut-être qu'après Mélodie, l'abîme est trop grand et que sans attache, on ne souffre pas. Peut-être que j'ai besoin de m'entourer de gens sans problème. Peut-être que je ne veux plus aider, mais m'aider moi-même. Peut-être que j'ai besoin de calme. Alors je prends du temps ailleurs, autre part, dans différentes sphères afin de me ressourcer. Là où il y a d'autres femmes en détresse qui essayent de se reconstruire. Je suis toujours membre de l'association Skin. L'association qui m'a permis de me révéler une nouvelle passion, celle de l'écriture. La présidente, Cécile, une femme charismatique que j'aime beaucoup, nous a proposé des créations en duo. Je travaille sur un projet de création de flacons de parfum avec Lorraine, jeune talentueuse designer d'une grande maison de luxe rue Cambon. Nos rencontres sont à chaque fois passionnantes, un réel partage de 2 cerveaux créatifs en ébullition. Je comprends beaucoup de choses sur moi pendant ces séances en duo. Cécile s'emploie à faire de l'art une thérapie, et j'avale tout ce qu'il y a à prendre comme une gloutonne. J'ai aussi d'autres soucis à gérer. Je n'ai pas que ceux de Kerianne à ingurgiter. En tant que maman solo, on me dit que j'ai le droit à des aides. Je découvre les joies de l'administration française. Après des multitudes de démarches, de documents à scanner, compresser, insérer dans des dossiers, j'ai été aidée juste 2 mois, pour que finalement, on me dise que mes revenus étaient trop élevés pour être aidés. Malheureusement, ils ne sont pas suffisants pour que nous soyons confortables. J'angoisse d'être malade, de ne pas toucher l'intégralité de mon salaire, de ne pas pouvoir payer mon loyer, de ne pas pouvoir faire des courses. Et merde, comment est-ce possible qu'une femme sortant d'un cancer, se retrouvant seule à gérer sa fille, vive dans une telle angoisse quotidienne? Et encore, je suis salariée. Comment vivent ces femmes malades qui n'ont pas de contrat, qui ont des enfants à nourrir? Pour les avoir rencontrées, je vous le dis, elles tombent dans la précarité. Et parfois sont obligés de subir des situations inhumaines pour survivre. La middle class est en colère. C'est un sujet sociétal, on en parle. Je le comprends, je le vis. J'ai du mal à joindre les deux bouts. C'était mon coup de gueule du jour. Je prends la décision d'écrire la suite des podcasts afin de donner un sens au titre « Le jour d'après » et de parler d'autre chose que le cancer. Parce qu'il n'y a pas que le cancer dans la vie d'une femme. La femme restera le fil rouge, mais j'ai envie, après Mélodie, de mettre d'autres personnes en avant. Et j'ai besoin de dire, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de dénoncer, de déranger, s'il le faut, afin que ces sujets ne soient plus tabous. Mardi, un jour de février, le café d'en bas, Karianne poursuit son déballage. Elle s'était construite au fil des années une carapace inébranlable, à tel point qu'elle s'en satisfaisait. Elle ne se sentait pas malheureuse, elle s'était habituée à l'inacceptable. Mais moi, je n'arrive pas à l'accepter.
À l'annonce de ma grossesse, pour me faire mal, il y mit un doute sur la paternité.
T'es qu'une petite traînée.
C'est ce qu'il disait. J'étais obligée de me justifier sans arrêt sur des choses que je n'avais jamais commises, que je n'avais jamais dites. La menace du test de paternité a cessé à l'arrivée du fils prodigue, tellement la ressemblance était flagrante.
J'ai su plus tard que sa plus grande peur était l'abandon. Depuis l'enfance, cette angoisse de se retrouver seule, désaimée, lui procurait des crises de panique. Ironie du sort, elle s'est finalement abandonnée elle-même. Je l'emmène à une journée La Roche-Posée. Je suis conviée régulièrement avec d'autres femmes de la communauté cancer Instagram à passer des moments de douceur, de soins et d'accompagnement. Des dermatologues, psychologues, écrivains, sexologues nous donnent des conseils, nous écoutent dans un climat de bienveillance. On se présente, on mange, on discute, on débat, on se masse les mains, on chante, on participe à divers ateliers, dans un loft aux couleurs attractives et joyeuses. Je voulais qu'elle rencontre des femmes malades ou en rémission, qui ont vécu ou vivent un énorme traumatisme. Ces femmes que j'admire, et qui ont tant de courage, parce qu'en fait, comme elles le disent, pour minimiser leur force, elles n'ont pas le choix. Je voulais qu'elles prennent le recul nécessaire pour se dire que rien n'est impossible. Qu'elles aient conscience de la chance d'être en vie avec toutes ses capacités physiques et mentales. Qu'elle a le choix de choisir son jour d'après, demain et son après-demain. Karianne a beaucoup pleuré pendant cette journée, silencieusement, avec ce regard qui cherche le vide.
Tu te rends compte? J'ai accepté qu'il ne me caresse plus et qu'il me repousse, qu'il me rejette. Qu'il dorme sur le canapé ou le dos tourné. J'ai accepté que mes sous-vêtements soient réduits à néant, déchirés, jetés par la fenêtre. Que ma sensualité soit oubliée, car être femme, plaire, n'était pas envisageable dans son esprit à lui. J'ai accepté que ma sexualité soit de courte durée, car il n'aimait pas l'amour avec moi. J'ai accepté de ranger mon plaisir sous le lit et de ne plus jouir. J'ai accepté qu'il fouille mon linge sale, qu'il examine mes sous-vêtements. Et quand il voyait des pertes blanches, il en déduisait que je le trompais. Qu'a-t-elle ? J'ai accepté de me faire insulter, humilier, rabaisser, suspecter.
Et puis sont arrivées les marques sur son corps après la naissance du deuxième enfant. Il ne la supportait plus. L'entendre respirer lui était insoutenable. Un soir où il était rentré tard, elle a dit un mot de trop, ou un mot de moins. Elle ne sait pas. Ses yeux se sont injectés de sang, sa bouche s'est remplie de bave. Elle a eu peur. Elle s'est levée, mais il s'est levé aussi. Et une course-poursuite dans l'appartement s'est déclenchée. Il n'y avait aucun recoin pour se réfugier. Elle était terrifiée. Elle s'est jetée sur le lit, lui sur elle. Il a serré ses mains autour de son cou en lui criant.
Tu m'as gâché ma vie. J'aimerais que tu sois morte.
Épisode joué par Suzanne dans le rôle de Kerianne, Guigui dans le rôle du mari de Kerianne et Karina B dans le rôle de Catel. Écrit et imaginé par Karina B, produit par l'association Demain. La suite de ton podcast, le jour d'après, sortira dans quelques jours. Encore un peu de patience.